sereine, de nature très curieuse, j'adore explorer, ressentir, rêver et comprendre le monde qui m'entoure. Avec ces podcasts, j'ai envie de vous inspirer, de vous inviter à prendre soin de la vie en vous et autour de vous. Au fil des épisodes, je vais vous proposer de rencontrer et découvrir des histoires de vie inspirantes, de découvrir et approfondir des sujets, vous donner des outils et des pistes d'action pour vous encourager à suivre vos inspirations, cultiver et nourrir le lien à vous-même, aux autres et aux vivants. Je vous souhaite de prendre autant de plaisir à écouter que moi j'ai de plaisir à enregistrer ces contenus. Ensemble, prenons soin d'aujourd'hui et contribuons à créer un monde plus juste, plus doux, plus respectueux des ressources intérieures de chacun et chacune et de la planète. Et si nous créions de nouvelles manières de faire et d'être au monde ? Dans les podcasts précédents, on a parlé de burn-out, de sens et de créativité. Mais une fois que l'on a retrouvé du sens, que l'on a peut-être créé un projet qui nous fait vibrer, qu'on est sur le chemin de reliance à soi et au monde en donnant naissance à des projets qui ont du cœur et qui sortent peut-être de ce qu'on connaît, on peut être visité par un sentiment d'imposture, d'illégitimité et les actualités sociétales, les différentes crises que l'on traverse, que ce soit sociale, environnementale ou autre, sont des réalités avec lesquelles il faut composer. Comment faire pour continuer à croire en ses rêves et garder le cap sur ses projets de cœur dans un monde qui va vite, dans une actualité parfois morose et triste? Comment faire avec les émotions que l'on peut ressentir par rapport à l'état du monde? On le disait dans le premier podcast, on est intimement lié à l'environnement. Il a un impact sur nous et sur nos émotions. On ne peut pas faire fi ou être complètement dans le déni de ce qui se passe, sous peine que ça nous rattrape à un moment donné. Et en étant entrepreneur, on est intimement lié à l'actualité du moment pour rester en contact et en lien avec le monde. Alors, comment faire pour maintenir ses priorités, ses projets de cœur à flot quand tout autour semble partir en vrille ? Comment continuer à croire en ses rêves et en ce qui nous fait vibrer ? Continuer à communiquer sur nos projets alors qu'autour de nous, le monde semble s'effondrer. Comment faire pour ne pas sombrer dans une certaine culpabilité en choisissant de continuer à avancer sur un chemin qui fait sens pour nous, respectueux de nos ressources et de celles de la planète ? C'est ce que je vous propose d'explorer aujourd'hui avec Isabelle Gilling, multi-entrepreneuse, ou plutôt entrepreneuse multi-passionnée, je ne sais pas trop comment on prononce, c'est elle qui va nous dire. Donc voilà, Isa, coucou.
Salut Hélène.
Je suis super heureuse que tu aies répondu à mon invitation car tu es une des personnes qui m'inspire énormément de par ta façon d'entreprendre et l'énergie que tu déploies à chaque fois pour mener à bien tes projets de cœur. Ça m'impressionne et ça donne la pêche. Alors, tu es multipassionnée, c'est bien ça ?
C'est ça, en tout cas c'est ce que je dis aujourd'hui.
Et aussi un peu hypersensible, il me semble.
Beaucoup.
Et tu t'es créé un job sur mesure, tout en étant connecté au reste du monde, ou en tout cas tu essayes. Peux-tu te présenter en quelques mots et nous dire quels ont été tes leviers, tes motivations à te lancer ? Quels sont les besoins que tu as voulu rencontrer en te lançant en tant qu'entrepreneuse ?
Alors aujourd'hui... Je dirais que je dis assez facilement que je suis multipassionnée parce que justement c'est devenu quelque chose d'acceptable pour moi. Mais lorsqu'on demande justement aux autres personnes ce qu'ils font dans la vie, on leur demande « tu fais quoi comme métier ?» C'est une question à laquelle j'ai jamais voulu répondre ou surtout que je n'arrivais pas à répondre à cette question. J'ai fait pas mal de métiers différents. Aujourd'hui, j'ose dire que j'en ai 4 parce que je les aime tous les 4 et que je m'assume comme ça. Donc j'ai une activité avec des programmes et des accompagnements en fitness et yoga. J'ai un blog sur notre transition nature et le DIY, tout ce qu'on fait à la maison pour vivre plus proche de la nature. J'ai une boutique en ligne de bijoux sacrés. Et j'ai une école en ligne pour les entrepreneurs multipassionnés. Alors évidemment, j'imagine qu'on parlera un petit peu de ça, mais si je reviens au tout début, c'était pas mon plan de vie d'avoir 4 métiers. C'était même pas quelque chose que j'aurais imaginé pouvoir assumer, en fait, avec le temps. C'est juste que j'ai découvert avec le temps comment est-ce qu'on peut justement sortir des étiquettes, même si c'est plus facile aujourd'hui de dire multipassionné, ok, tout le monde comprend, mais réellement comment est-ce qu'on peut tout simplement aimer nos journées aimer nos journées tout en trouvant une façon d'agir là où on se sent compétent, là où on s'amuse, là où ça nous nourrit, là où ça apporte quelque chose au monde. Et bah, j'ai découvert un peu petit à petit que moi, ça m'éclatait de faire plein de choses différentes.
Du coup, en cela, on peut dire que tu es un peu que tu t'engages dans une nouvelle façon d'entreprendre. Tu sors un peu du cadre conventionnel, non ?
Oui. Et finalement, ce qui est très drôle, c'est qu'au départ, il y a 12 ans donc, que j'ai commencé à entreprendre, j'ai essayé d'entreprendre de façon très classique, en n'ayant qu'un seul métier, mais c'était déjà un métier relativement atypique. Je faisais des meubles en carton et j'ai longtemps pensé que j'étais anormale. Aujourd'hui, on nous dit hein, qu'on doit rentrer dans un moule, qu'on doit rentrer dans un carré. Je me suis rapidement rendu compte que moi, j'étais plutôt non seulement un cercle, mais un multicercle. Et j'ai longtemps culpabilisé de comment je fonctionnais, de comment je ressentais les choses, de ce que j'avais envie de faire, tout en, comme tu le disais au début, me sentant souvent illégitime. Donc, ça a été un parcours, vraiment un chemin de tous les jours, de s'accepter, de progresser. Et puis, comme tu dis, d'essayer de créer non pas ce que les gens attendent de nous, mais qu'est-ce qui nourrit l'humain qui est venu sur cette terre, finalement, pour apporter quelque chose.
Je trouve ça vraiment génial, en fait, que tu te donnes l'autorisation, parce que finalement, moi, je le vois vraiment comme une autorisation qu'on se donne de créer, en fait, de nouvelles façons de fonctionner. Ici, c'est une nouvelle façon d'entreprendre. Je trouve ça vraiment inspirant pour répondre aussi aux enjeux... aux enjeux de la société actuelle, c'est-à-dire qu'on considère qu'on est dans une période de transition, ce qu'on connaît ne fonctionne plus, ou en tout cas a des lacunes, et donc tu te lances vraiment avec tout ton cœur dans un projet qui a du sens. Je trouve ça vraiment courageux, en fait.
Merci. En tout cas, ce que je pense qui est important aujourd'hui, je me suis simplement rendu compte avec le temps que si moi, je faisais progressivement ce qui me rendait meilleur, alors meilleur pas dans le sens plus que, mais en tout cas ce qui pouvait me permettre d'être mieux avec moi-même et donc forcément d'entrer mieux en relation avec les autres. Il y a un moment donné où j'ai pris conscience que si on essaye chacun d'être déjà un peu mieux avec soi-même, qu'il y avait de fortes chances que... qu'il y ait peut-être un peu moins de tension dans le monde. Alors forcément, il y a toutes les choses qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on est justement en train d'observer dans ce qui se passe actuellement. Mais je me dis que là où je peux agir, j'ai jamais été quelqu'un qui a envie d'aller au front. C'est pas mon truc, moi, d'aller au front. Mais par contre, je pense qu'on est vraiment tous capables d'apporter sa petite pierre à l'édifice, de se faire du bien en tant qu'humain. Déjà, ça peut sembler égoïste, mais finalement, je pense que si on apprend à se faire du bien, on peut mieux entrer en relation avec les autres. Et c'est déjà ça de gagner par rapport à ce qui se passe dans le monde là maintenant.
Justement, tu parles de plusieurs choses, de déjà apprendre à se faire du bien et se faire du bien. Ça peut parfois, enfin en tout cas moi c'est ce que je ressens, quand on se lance dans un projet qui a du sens, dans un projet qui nous fait vibrer, qui est important pour nous et qui peut paraître un peu bizarre parce que justement pas conventionnel, on peut parfois se sentir coupable par rapport au reste du monde, par rapport à ce qui se passe dans le reste du monde. On est en train de traverser pour l'instant des crises, que ce soit, enfin on sort du Covid tout doucement, mais en ce moment, il y a la guerre en Ukraine et puis il y a eu le rapport du GIEC ici dernièrement qui est sorti, qui n'était pas glorieux. Comment est-ce qu'on... Enfin, dans le monde de l'entrepreneuriat, tout n'est pas toujours bisounours. Comment est-ce qu'on fait, en fait, pour rester en contact avec ces actualités, pour ne pas être complètement sur une autre planète et rester concentré, rester bien ancré, justement, et continuer à croire et à avancer sur ce chemin de l'entrepreneuriat avec ces projets, justement, qui ont du sens pour nous? Comment on fait? Je ne sais pas s'il y a une réponse toute faite.
Non, ça c'est certain. On est déjà dans des grandes questions. Mais ce que je me dis, c'est que quand on entreprend, déjà on va choisir finalement un domaine dans lequel on va apporter finalement sa contribution, quelle que soit l'échelle. Il y a des petites entreprises, il y a des grosses entreprises, il y a des petits projets sociaux, il y a des gros projets sociaux. Il y en a qui vont faire des bracelets l'après-midi, puis il y en a d'autres qui vont faire du maraîchage, on en parlait tout à l'heure, et qui vont nourrir le village, etc. Ce que je trouve vraiment précieux quand on commence à chercher finalement dans quoi on s'épanouit, c'est d'être relativement honnête avec soi-même sur... C'est quoi qui m'anime vraiment, dans quoi je me sens nourrie d'exercer comme métier, comme voilà, moi, dans les différentes façons dont je me sens nourrie, c'est quand je fais des choses créatives. Quand je fais des choses créatives, paradoxalement, ben, je fais du bien aux gens, mais je ne fais pas partie de ces personnes qui peuvent aller soigner dans des situations de crise et de guerre. Et donc, c'est très culpabilisant, comme tu le disais, parce que parfois, on aurait envie d'aider, soi-disant dans des domaines plus nécessaires. On peut avoir la sensation finalement que dans les métiers dans lesquels on va exercer, c'est pas nécessaire aujourd'hui ou que c'est clairement secondaire. Alors là, c'est faux et vrai à la fois. Donc bien entendu que quand on entend les circonstances qui se passent là dans d'autres pays ou même très très proche de nous, aujourd'hui avec les situations du Covid, il y a certaines personnes autour de nous, voire très proches ou peut-être même directement sous notre toit qui vivent des crises. Le chemin que j'ai essayé de faire, et comme tu dis, il n'y a pas de réponse parfaite, mais celle qui m'a permis de me réconcilier avec ma douleur, ma propre douleur et ma propre culpabilité. Ici, quand je parle de douleur, je veux dire que tout simplement, quand on est à tendance sensible, hypersensible et très empathe, c'est difficile déjà même pour nombreux d'entre nous de se lever en ayant conscience de ce qui existe dans le monde. Donc là où ça devient difficile, c'est quand on se lève avec une telle conscience, alors que les actions qu'on doit faire en temps réel dans l'heure qui suit notre lever sont de l'ordre du... tu sais, là on parle vraiment de ce qui va se passer sous notre toit, entrer en relation avec notre compagnon, notre compagne, gérer nos enfants, gérer le fait de peut-être créer un revenu pour notre propre famille, se mettre en sécurité. Et pour certaines personnes, c'est déjà un immense challenge de juste exister. Et donc, le chemin, comme je disais, que j'ai essayé d'entreprendre, c'est de comprendre et d'avoir un maximum de conscience sur c'est quoi qui m'anime, de quoi suis-je capable, de quoi ai-je envie, dans quoi je me sens capable de contribuer et comment est-ce que je peux... parvenir à me lever le matin sans laisser entrer ce monde entier dans ma propre journée. Et je vais prendre un exemple concret pour que ça soit plus imagé pour vous. Pour moi, un des plus grands challenges de mon parcours de femme, bah, c'est d'avoir une chouette relation avec ma fille, d'être une maman telle que je souhaiterais. Et quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, bah, des fois je me dis, c'est déjà un très beau rôle d'essayer d'être une bonne maman, d'essayer d'apporter sa petite touche de lumière à quelqu'un, ça peut être son voisin, etc. Ça semble complètement, finalement, insignifiant comparé à ce qu'on aimerait pouvoir faire. Mais sincèrement, moi, je ne me sens pas capable de gérer des problèmes mondiaux. Certaines personnes ont cette mission, et c'est là, tout à l'heure, je vous parlais de conscience de soi, d'avoir aussi la totale honnêteté envers soi. Si vous êtes et si vous faites partie de ceux qui ont envie d'aller vraiment régler dans le cœur de l'action des choses comme il se passe dans le monde, c'est merveilleux, mais ça n'a pas moins de valeur d'essayer d'être une bonne maman, d'essayer de vivre ta journée en essayant d'avoir un impact le plus on va dire le plus bénéfique possible sur soi-même, sur son entourage proche, sur son environnement proche, sur son équipe peut-être, là où vous travaillez, sur vos enfants. C'est déjà une sacrée mission, je trouve. Donc moi, ma culpabilité, j'essaye de la naviguer, parce qu'en fait, je ne l'enlève pas. J'essaye de la naviguer en me disant, si je prends soin de mon système nerveux, je suis une meilleure maman, j'ai plus de conscience dans mes relations, peut-être que je vais impacter un enfant qui va créer quelque chose, qui va changer quelque chose dans le monde.
Ça enlève une sacrée dose de pression et ça rejoint un peu ce que Nathalie Hanneau disait dans le premier podcast, de vraiment, parce qu'on parlait d'éco-anxiété avec elle et elle disait vraiment voilà, de remettre les choses un peu à plat en se rendant bien compte qu'on ne peut pas agir sur tout en fait, quoi. Et toi, justement, en tant que maman avec un profil un peu atypique, donc on y parlait de multipotentialité, d'hypersensibilité, comment tu as fait pour naviguer à travers toutes les émotions qui peuvent peut-être parfois te traverser et malgré tout rester bien ancrée et avancer sur ce chemin de l'entrepreneuriat?
Ben, au début, je ne l'étais pas du tout, en fait, tout simplement. Donc, ça a été, je dirais, les montagnes russes parce que, et je pense que vous serez d'accord avec moi, entreprendre, c'est déjà une montagne russe à part entière. Comme je me sentais déjà atypique dans la façon et dans les types de projets que j'avais envie d'entreprendre, au début, il n'était pas prévu, hein, comme je disais, que j'ai 4 métiers. Donc, j'essayais déjà de créer un métier en travaillant depuis la maison. Quelque chose qui était important pour moi, c'était de pouvoir rester à la maison, m'occuper de mon potager, être avec ma famille, faire des choses que j'aimais bien et essayer de créer un revenu avec les choses qui me passionnent depuis la maison. Et très très vite, je me suis confrontée aux premières angoisses et aux premières émotions liées à l'entrepreneuriat en lui-même. C'est le fait que j'étais dans un contexte où très peu de personnes autour de moi faisaient ce genre de métier. Les gens étaient entrepreneurs, mais avaient plutôt des magasins ou bien un métier bien connu, hein, quelque chose de simple et pratico-pratique. Et dans mon cas, au départ, le fait de vraiment vouloir gagner sa vie en faisant du blogging, en faisant de l'accompagnement à distance, en faisant peut-être des créations artistiques, en partageant dans le monde entier au travers de chaînes YouTube et ce genre de choses, tout le monde m'a un peu découragée au début en me disant que j'étais un peu folle. Et donc, je pensais vraiment que j'allais pas y arriver. J'étais pas toujours très encouragée et j'avais pas beaucoup d'exemples autour de moi. Donc, déjà, se lever chaque matin en ayant un désir qui nous appartient à nous tout seuls, mais en ayant une espèce de foi qui vient de nulle part, mais en étant chaque jour confrontée aux doutes, aux angoisses, peut-être même pour certains d'entre vous à des découragements qui sont verbalisés par des personnes autour de vous, vraiment des gens qui veulent votre bien mais qui finalement vous tirent vers le bas. Donc dans mon cas, ça allait, j'étais pas tirée vers le bas, mais j'avais des doutes vraiment chaque jour. Je pense que je me suis au départ, pour cette phase-là, vraiment connectée à c'est quoi ma journée de rêve, c'est comment que j'ai envie de vivre, et je ne sais pas pourquoi, j'avais comme une petite voix qui me disait que c'était possible. Donc un des premiers leviers que j'ai utilisé pour moi qui m'a fait énormément de bien, c'est que comme une partie de moi y croyait, j'ai cherché. J'ai cherché des ressources, des personnes qui le faisaient, qui vivaient comme ça, qui étaient comme moi. Et c'est petit à petit, à force de fouiller, à force de chercher tout un tas d'autres contenus, d'autres entrepreneurs un petit peu atypiques, un peu originaux, que je me suis dit « Ah tiens, cette façon de fonctionner, elle est cool, celle-là, ça me plaît bien aussi. » Et je commençais à devenir finalement créative à partir des informations que je trouvais partout. Et c'est justement, aujourd'hui, tu parlais de ce monde en transition. Et je pense que c'était une ressource qu'on ne valorisait pas à l'époque autant que maintenant. Oui, cette sûr. Capacité à tisser des liens entre les événements, créer des ponts entre des sujets qui ne sont pas connectés pour autant. Et aujourd'hui, dans le monde, c'est un des premiers trésors. Pour moi, c'est vraiment un trésor que j'ai découvert, que je ne considérais pas comme étant finalement quelque chose de positif avant. C'est cette capacité, en fait, à tisser des ponts entre des sujets différents et devenir créatif. Et aujourd'hui, des solutions, on va en avoir besoin. De la flexibilité et de la créativité, on va en avoir besoin. Donc, première chose que j'ai vraiment utilisée, c'était ça, c'est aller chercher des trésors à l'extérieur et rassembler les informations que j'avais, qui me semblaient pertinentes et intéressantes et surtout qui me permettaient de continuer pour un chapitre de plus. J'essayais pas de révolutionner le monde, mais juste de me dire comment est-ce que je peux conserver mon courage et mon envie quelques jours de plus, quelques semaines de plus, quelques mois de plus. Ensuite, les autres paliers d'émotions qui n'ont pas été évidentes, c'est que quand on commence vraiment à entreprendre, à construire des choses dans la réalité, dans la matière, qu'on n'est plus uniquement dans sa tête, on est confronté forcément au retour de la réalité sous toutes ses formes. Donc, on est confronté au retour des gens sur ce qu'ils apprécient, ce qu'ils apprécient moins. On peut avoir tendance à se remettre soi en question, pas se sentir assez compétent, etc. Donc, j'ai dû naviguer toutes ces émotions d'estime de soi, point barre. C'est-à-dire que si je le fais un grand raccourci, quelles que soient les émotions que je traversais, c'était refaire un travail d'amour de soi, d'estime de soi, d'être capable de mettre des limites avec les humains, parce que dès qu'on entre en relation finalement avec le monde, si on n'a pas pris un temps de pause ou assez de temps pour se connaître, se comprendre, savoir de quoi on a besoin, savoir ce qui nous nourrit et savoir à quoi dire non, je me suis retrouvée évidemment de fil en aiguille dans des situations où je ne me suis pas respectée dans mes limites. Donc ça, c'était vraiment une deuxième phase, c'est de naviguer avec c'est quoi s'aimer, c'est quoi se respecter, c'est quoi se trouver suffisamment compétent tout en étant toujours dans une posture d'élève. Et là, ça va être un peu la troisième clé qui m'aide encore aujourd'hui au quotidien avec tous les événements du moment, c'est quel genre de personne j'ai envie d'être. Bien sûr, on a tous des souhaits, on a envie d'avoir des choses, d'obtenir des choses, on a aussi envie de donner beaucoup de choses, mais la question qui me ramène toujours au centre, à cet ancrage dont tu parlais tout à l'heure, c'est dans 20 ans, comment j'ai envie de me souvenir de moi-même déjà, comment j'ai envie de regarder ma vie quand je serai vieille, quand je serai une petite mamie, j'ai envie d'avoir été quel genre d'humain. Et donc, quand je pars en cacahuète dans mes émotions, j'ai aussi, bien entendu, comme tout le monde, j'ai essayé de faire mon chemin d'apprentissage avec des techniques, des méthodes, que ça soit au travers du coaching, du breathwork, de la pleine conscience, de l'hypnose. Donc, bien entendu, on peut parler de grosses boîtes à outils. On peut tous aller chercher des boîtes à outils pour travailler avec ses émotions et naviguer avec. Mais la question la plus simple que je pouvais toujours me poser à un moment donné, quoi que je fasse, quoi que j'entreprenne, quelle que soit la discussion que j'ai, le partage que j'ai, le produit que je vais vendre ou le moindre événement que je vis dans ma vie, la question la plus simple à me poser, c'est j'ai envie d'être quel genre d'humain. Et ça me permet de mieux naviguer aussi, ok, quand ça part en cacahuète dans le monde, que je me lève le matin, si je me dis quel genre d'humain j'ai envie d'être, là, en ce moment, dans le temps présent, j'ai juste envie d'avoir un bon petit déjeuner avec ma fille et d'être cette bonne maman, par exemple. Ensuite, j'ai un moment d'enregistrement avec toi, Hélène. Quel genre d'humain j'ai envie d'être ? De quoi je veux me souvenir de ce moment-là ? Donc, c'est finalement, malgré tout ce qui se passe à l'extérieur, je n'ai pas le pouvoir sur ce qui se passe là maintenant en Ukraine, par exemple. J'ai uniquement le pouvoir sur quelle conversation j'ai avec vous et avec toi. J'ai pas d'autre pouvoir que ça, là, dans l'immédiat. Voilà un petit peu ce que je dirais par rapport à tout ça.
J'avais envie de rebondir sur les relations que tu pouvais avoir avec l'extérieur. À un moment donné, tu dis que dans ton chemin de réflexion, de transition, tu t'es tournée vers l'extérieur pour t'inspirer finalement, c'est ça, un petit peu de ce qui se faisait déjà. Et moi, j'avais envie d'insister là-dessus parce que je pense que c'est vraiment important à un moment donné quand on se sent vraiment perdu ou qu'on est dans ces moments un peu plus de transition et qu'on sent un appel et qu'on a envie de créer quelque chose de nouveau, qu'on a envie d'incarner cet humain mais qui peut paraître peut-être un peu fou aux yeux de la norme ou justement de ces cases comme tu le disais au début. C'est important de se relier à ce qui se fait déjà, à se relier à ces projets qui peuvent être considérés comme complètement fous ou à ces gens qui se sont déjà engagés dans des projets qui font sens pour eux en fait. De ne pas rester seul, qu'est-ce que tu penses de ça?
Oui, de ne pas rester seule. Et une des premières raisons pour lesquelles je pense que c'est important de ne pas rester seule, c'est parce que forcément, nous, humains, on est conçus, notre merveilleuse machine, elle est conçue pour, rester dans le confort. Surtout, en fait, cette notion de vouloir rester dans le confort, c'est que le confort pour notre cerveau ne signifie pas forcément la même chose pour nous et nos rêves. Et donc, du coup, quand on a cette envie de réaliser des très beaux projets, on peut s'auto-saboter, on peut avoir des œillères finalement et des angles morts qui vont nous empêcher d'avancer. On va finalement créer un espèce de système de croyances. Et quand on reste tout seul dans sa propre boucle, on finit par s'inventer toute une histoire. On finit par se dire que c'est pas possible, qu'on est complètement en train de délirer. Donc déjà, la première étape de pouvoir entrer en relation avec des gens qui sont passionnés, sans même pour autant qu'ils aient un projet très très spécial ou waouh, mais juste de voir que des gens passionnés sont actifs dans leurs projets et dans leurs rêves et forcément par exemple dans l'entrepreneuriat, ça nous permet d'être en contact avec une autre énergie et de sortir de se regarder soi tout le temps. Parce que quand on se regarde soi tout le temps, bah, cette fameuse machine, notre corps et notre cerveau, est conçue pour ne pas nous faire aller dans des situations inconfortables comme les prises de risque de réaliser des rêves et des projets. Donc déjà être au contact de personnes qui sont passionnées et qui sont actives dans leurs propres rêves, ça nous donne l'élan, ça nous permet de sortir de notre petite bulle à nous regarder nous-mêmes et de commencer à sortir vers l'extérieur nos idées. La deuxième chose que je trouve vraiment précieuse dans le fait d'aller s'inspirer, même s'il y a les limites, hein, évidemment, par rapport au fait de s'inspirer, on finit par trop se comparer. Donc, c'est juste bien s'entourer de personnes qui vont vouloir notre bien, qui vont souhaiter qu'on puisse réaliser nos projets, qui vont être à l'écoute. Le fait de voir d'autres personnes exercer leur propre métier, en particulier des métiers qui vont être un peu atypiques, ça peut nous donner cette fameuse étincelle que non seulement c'est possible, non seulement c'est autorisé, mais en plus, on peut aller au-delà de ça. Ça veut dire que c'est pas parce que vous avez peut-être une façon de vivre ou un métier qui va sortir un petit peu du cadre que tout va être difficile. Le chemin le plus difficile, c'est pas de créer ce métier-là, c'est de s'autoriser, comme tu le disais tout à l'heure, de s'autoriser à essayer, à rater et à trouver sa propre façon de faire sur mesure. Mais on ne peut pas trouver ni créer une façon de faire sur mesure sans éléments déjà existants. Dans la façon dont j'exerce mes métiers aujourd'hui, finalement, ok, j'ai 4 métiers, et tu disais c'est un peu innovant, etc. Mais c'est sûr qu'on nous apprend pas à l'école non seulement que c'est possible, on nous dit pas comment faire déjà pour un seul métier, pour vraiment se sentir légitime, trouver sa façon de fonctionner, s'organiser, savoir entrer en relation avec les autres, se trouver sa place dans le monde. Mais quand on a envie d'exercer plusieurs métiers, bah, certainement, évidemment, ça m'a demandé de comprendre vraiment mon fonctionnement, pourquoi c'était important pour moi de pouvoir alterner entre les activités, de une journée faire des bijoux, puis ensuite 3 jours faire de l'accompagnement au yoga et puis faire une retraite d'une semaine et tout ça. Mais en dessous de ces couches-là, je suis partie de choses existantes en m'inspirant de ok, ben, par exemple, oui, c'est possible de gagner sa vie en créant ses bijoux depuis la maison. C'est aussi possible de gagner sa vie en voyageant et en coachant des personnes. C'est aussi possible, et donc en rassemblant les morceaux que j'ai trouvés, je me suis dit, mais si je le colle à ma personnalité, et si j'essayais ? Et si j'essayais ? Donc les gens pensent peut-être que c'est facile, mais en réalité, j'ai juste oser essayer et surtout j'ai osé me vautrer pour certaines choses. Du moment que on va vers ce qui nous plaît vraiment, se tromper c'est pas grave, on se trompe, on réajuste, on prend note de ce qui a été pertinent et de ce qui ne l'a pas été, de ce qu'on a aimé et de ce qui ne nous a pas convenu, et puis on recommence, et puis rien ne m'empêche de dévier et de changer ma route si je trouve ça nécessaire.
Oui, c'est ça, parce qu'on pourrait croire ou avoir tendance à croire que c'est le monde des bisounours, en fait, quand on est dans l'entrepreneuriat du projet de nos rêves. Mais en fait, pas du tout, quoi. La vie continue, et puis il y a des hauts, il y a des bas. Et puis, comme tu dis, tu peux toujours changer si tu te rends compte que finalement, c'est pas ça qui va.
Oui, et par rapport à ce côté bisounours, bah, finalement, c'est comme les saisons, c'est comme la nature. On a beaucoup de mal en tant qu'entrepreneur à accepter bah, qu'on a un hiver en fait et que c'est super difficile d'accepter ces saisons dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans l'année. On a vraiment des saisons dans nos projets, même quand on n'a qu'un seul métier. Il y a des saisons d'énergie, il y a des moments où on a vraiment besoin de prendre du recul et puis d'observer ce qui s'est passé, de laisser les choses se composter finalement. Et puis il y a des moments où on a des grands, grands élans d'énergie et c'est vraiment accepter finalement bah, qu'on est juste humain. La plus grosse prise de conscience qui m'a permis de m'accepter, c'est et de continuer à rester finalement branchée sur mes rêves, c'est que personne ne nous demande réellement de faire les choses d'une certaine façon. Oui, on a une pression sociale, c'est vrai. Il y a une pression éducative qu'on a eue, mais réellement, si on apprend à se connaître et à aller vers ses rêves, à la fin de ma vie, il n'y a personne qui m'a demandé et qui m'a dit quoi faire aujourd'hui. Donc si je ne me lead pas moi-même là-dedans, si je ne définis pas où j'ai envie d'aller, si je ne me pose pas de temps en temps sur ma chaise pour regarder ce que j'ai fait, regarder ce qui s'est passé, regarder où j'ai envie d'aller, personne ne va le faire à ma place. Et je dirais même pire, vous le savez, c'est ce qu'on entend souvent, c'est que si je ne le fais pas moi-même, quelqu'un va le faire pour moi et va me dire où aller. Et donc moi, c'est une grosse prise de conscience de me dire, mais finalement, il n'y a personne qui m'oblige à fonctionner réellement d'une certaine façon. Bien entendu, par rapport au petit côté bisounours, les vraies coulisses derrière ça, c'est que ça demande énormément de courage de voir aussi ces facettes les moins jolies. De voir tous ces jours où on n'a pas le courage, de voir tous ces jours où on a envie de s'asseoir au bord de l'autoroute, qu'on a envie de tout laisser tomber, de vivre ces moments où on ne s'est pas senti assez compétent, de découvrir que peut-être on a eu les yeux plus gros que le ventre dans un projet et que finalement notre corps ne peut pas suivre, d'accepter le ralentissement. Donc en fait, c'est ça, c'est tous ces rythmes rapides et puis lents, tous ces auto-feedbacks que ça demande. Et puis de savoir naviguer quand c'est la tempête et qu'il y a des épreuves qu'on n'a pas maîtrisées qui viennent à nous, les choses qu'on ne peut pas contrôler. Donc finalement, moi j'ai envie de dire que c'est le plus gros laboratoire que j'ai jamais vécu, mais c'est celui qui a été le plus épanouissant parce que il n'y a pas évidemment que les côtés difficiles, il y a aussi tous les cadeaux qui viennent avec.
Oui, la vie quoi, finalement, quoi, avec les hauts, les bas, les bons, les mauvais. Et tu parlais des saisons de l'entrepreneur, de l'entrepreneuriat. Ça me fait penser aussi aux saisons de la créativité, parce que moi, je suis assez branchée sur la thématique de la créativité. Alors, la créativité, on peut penser tout de suite à activité artistique, mais la créativité, c'est bien plus large que ça. Justement, d'être d'entrepreneur, ça nous demande d'être créatif, d'imaginer des solutions pour le monde dans lequel on souhaite vivre, se projeter dans un futur souhaitable, etc. Ça demande de la créativité. Et la créativité, c'est un processus naturel, on en a tous et elle a aussi ses saisons justement avec ce que tu disais, ces moments de « waouh, j'ai plein d'idées, c'est génial », ce qu'on appelle les moments d'inspiration et puis ces moments où on va transformer ces idées dans la matière, en leur donnant vie, ces moments où on passe à l'action et puis il y a ces moments aussi où justement on a été super productif et où on est un peu plus fatigué et où on a besoin de repos, de composter justement toute cette créativité pour pouvoir, un peu comme le jardin aussi, hein, qui pendant tout l'hiver ça a composté, maintenant c'est le printemps qui recommence, tout doucement voilà, revenir à des cycles de vie et des cycles créateurs quoi. D'ailleurs, si jamais si cette thématique de la créativité vous parle, je vous donne rendez-vous sur mon site internet www.helenelaviolette.com pour découvrir des outils et notamment l'outil du journal créatif avec lequel j'explore cette créativité. On a besoin de créativité aussi pour créer une vie sur mesure, pour créer encore une fois ce monde dans lequel on souhaite vivre, pour incarner cet humain qu'on a envie de vivre, d'être. Donc pour stimuler cette créativité, je vous propose différents ateliers. Donc allez voir sur mon site et il y a aussi sur YouTube, je vous propose des ateliers de journal créatif sur YouTube. Donc vous tapez Hélène Laviolette et vous allez trouver ça. Et toi Isa, si on veut te retrouver, où est-ce qu'on peut te trouver justement avec tous ces métiers là?
Le carrefour, je dirais le plus pratique pour pouvoir découvrir justement les quatre métiers, c'est mon site internet slasheusedigitale.com où je présente justement comment j'ai construit mes quatre métiers avec certaines parties qui sont en présentiel, d'autres qui sont en ligne, certaines parties qui sont plutôt de l'ordre de la création de bijoux, etc. et d'accompagnement. Et donc je présente vraiment comment petit à petit j'ai mis en place cette façon de vivre au travers de quatre activités complètement différentes et surtout non seulement ce qui s'est passé un petit peu dans ma tête, mais quels outils j'ai utilisés, c'est-à-dire concrètement au jour le jour, comment est-ce que j'ai mis ça en place et donc je vous partage plein de petites coulisses sur le comment faire, comment vraiment créer son propre métier sur mesure.
Merci Isa.
Avec grand plaisir, merci à toi Hélène.
Merci beaucoup.